Il est 6h.
France Inter, le 6-7, Pierre Veil.
Le journal, voici Germain Treille. Bonjour Germain.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. La cellule djihadiste de Catalogne préparait une attaque de grande envergure à Barcelone. C'est ce qui ressort des premières auditions des quatre terroristes qui ont été interpellés. Un point sur l'enquête dans un instant. Le Vatican négocie une visite du pape en Russie. Le numéro 2 de l'Église catholique va rencontrer Vladimir Poutine. Une rencontre peut-être décisive pour un voyage du souverain pontife à Moscou. Paris retrouve des couleurs. Le tourisme dans la capitale est en pleine forme après une année 2016 moribonde grâce à la clientèle asiatique.
France Inter.
Il voulait semer la terreur et la mort d'une manière encore plus ignoble. Il voulait tuer encore plus de touristes et d'habitants à Barcelone. Il voulait viser des endroits très fréquentés. Les terroristes de Daesh, un commando d'une douzaine d'hommes, ont préparé des attaques à la bombe de plus grande envergure. Mais l'explosion de la maison d'Alcanar a fait capoter leur épouvantable projet. Leur plan B, malheureusement, a fonctionné. La cellule djihadiste a été entièrement neutralisée. 8 terroristes abattus. Les 4 autres, interpellés par la police, ont été auditionnés hier à Madrid, Pierre Chaperon.
L'audition des présumés terroristes qui ont sévi à Barcelone et Cambrils aura duré plus de 5 heures. Au final, ils auront commencé à livrer quelques informations sur les attentats. Tout d'abord, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, est bien le cerveau de l'opération, comme l'ont notifié les 4 suspects entendus. Autre affirmation signée Mohamed Oulil Chemlal, l'Espagnol de 21 ans arrêté à Alcanar, a bien confirmé que des grands monuments de Barcelone étaient visés, sans préciser pour autant lesquels. Reste que lui et Idriss Oubakir, marocain de 27 ans, ont été placés en détention provisoire par le juge. Mohamed Alla, dont la voiture avait été subtilisée par son frère pour l'attaque à Cambrils, a été laissé en liberté conditionnelle. Pour la justice, faute d'indices, le cas du dernier, Salah El Karib, reste en suspens. Le juge se laisse 3 jours avant de prendre une décision. Madrid, Pierre Chaperon, France Inter.
Ce matin, on apprend que 2 hommes soupçonnés d'avoir un lien avec les attaques en Espagne ont été arrêtés dimanche au Maroc. Le bilan des attentats de Barcelone et de Cambrils, c'est de 15 morts et de plus de 100 blessés. Le tacle de François Hollande à son successeur. Pour la première fois depuis son départ de l'Élysée, il s'est exprimé publiquement sur la politique et il a recadré vigoureusement Emmanuel Macron et le gouvernement en pleine négociation, vous le savez, sur la loi travail avec les organisations syndicales et patronales. Il ne faudrait pas demander aux Français des sacrifices qui ne sont pas utiles, a dit François Hollande. Justement, la réforme du Code du travail, les discussions se poursuivent. Aujourd'hui, la CGT, la CFDT et la CFTC sont reçus par les conseillers de la ministre Muriel Pénicaud. Hier, c'est le MEDEF qui a été consulté. Le suspense touche à sa fin. Le contenu des ordonnances sera dévoilé le 31.
6h03, le journal Germain Trey. Et Germain, le pape François pourrait se rendre en Russie.
Oui, un voyage à Moscou dans les prochains mois. Oui, c'est bien ça que prépare le cardinal Parolin, le principal collaborateur du pape. Même si pour l'instant, une telle visite semble difficile à organiser. Cela dit, le numéro 2 du Vatican est en Russie cette semaine, et ce n'est pas un simple déplacement d'agrément. Il discute avec les plus hautes autorités religieuses du pays, dont le patriarche de l'Église orthodoxe. Et aujourd'hui, Claude Brouillot, il sera reçu par le président Vladimir Poutine.
La photo officielle de Mgr Parolin aux côtés de Vladimir Poutine aujourd'hui à Sochi interpellera sans doute davantage. Pourtant, dès hier, le numéro 2 de l'Église catholique évoquait déjà, avec le patriarche Kirill, la recherche d'unité sur les grands problèmes contemporains, comme si la méfiance de la hiérarchie orthodoxe à l'égard de son homologue catholique n'était finalement plus qu'un mauvais souvenir. Sergueï Filatov est président de la Fondation russe pour les programmes sociaux et intellectuels. Cette phobie était une des causes de l'antipathie générale contre l'Occident. Dans la situation actuelle, l'Église orthodoxe se débarrasse probablement de ses humeurs anticatholiques traditionnelles qui datent de plusieurs siècles. Nous devons être reconnaissants que la situation politique actuelle nous permette d'apprécier le regard du pape vers l'avenir. Et chacun évidemment de s'interroger sur l'éventualité d'une première visite historique du pape François en Russie, projection prématurée pour beaucoup d'observateurs. L'Église orthodoxe russe, qui a perdu dans la crise ukrainienne une part de son influence régionale, apprécie d'abord à sa juste valeur ce regain de lumière. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Moscou annonce un accord de cessez-le-feu imminent dans l'est de l'Ukraine. La chancelière allemande Angela Merkel et les présidents russes, ukrainiens et français Poutine, Porochenko et Macron se sont entretenus au téléphone afin d'officialiser cette trêve qui doit entrer en vigueur le 1er septembre. Depuis 3 ans, le conflit opposant séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes a fait plus de 10 000 morts.
6h05, Germain, SFR a créé sa propre chaîne de séries et de cinéma.
Ça s'appelle Altice Studio. Avec cette nouvelle offre, après l'info et le sport, le groupe de télécom poursuit ainsi son développement et concurrence ouvertement sur les contenus Orange qui est allié à Canal+. Les précisions d'Alexandra Hakoun.
Annoncement presque en catimini hier soir, la conférence de presse n'aura lieu que la semaine prochaine. Pourtant, on sait que SFR a mis les moyens pour Altice Studio, 160 millions d'euros et la promesse de diffuser 400 films et séries par an pour toute la famille. Des blockbusters américains grâce à des partenariats signés pour 3 ans avec NBC, Universal et Discovery. Netflix, Amazon et Sky devraient quant à eux fournir 2 séries originales par mois. Viendront s'ajouter au catalogue des créations françaises et des coproductions maison, le prochain Jaoui Bakri par exemple, ou encore la série Riviera de l'Irlandais Neil Jordan. Après SFR Press et SFR Sport, Altice Studio vient donc parfaitement compléter l'offre de contenu du groupe de Patrick Drahi, une stratégie agressive qui a récemment poussé son grand rival Orange à renforcer son partenariat avec Canal+. Et si l'opérateur historique se tient pour l'instant à l'écart de la bataille pour les droits sportifs, il devrait muscler ses investissements dans la fiction. Stratégie toujours, jusqu'au 15 septembre, Altice Studio est gratuite sur les box SFR sur le canal 31.
Alexandra Hakoun pour France Inter.
6h06, Germain Treille, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, les quais de Seine, évidemment, attirent de nouveau les touristes.
Paris 2017, 1,5 million de touristes supplémentaires par rapport à 2016, une hausse de 15%, les professionnels se frottent les mains. Paris fait de nouveau rêver et personne ne va s'en plaindre. Notre capitale rayonne dans le monde entier. La clientèle asiatique qui nous avait boudé l'an dernier revient, et en particulier les Japonais qui font l'objet d'une attention particulière, tout simplement parce qu'ils dépensent plus que les autres, près de 200 euros par jour. La moyenne des autres visiteurs, c'est 150 euros, Martin Delacou.
Très tôt, après les attentats de 2015, Paris et la région Île-de-France ont voulu faire passer un message. Non, la France n'est pas devenue un pays à risque. Oui, les mesures de sécurité sont suffisantes. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, s'adresse en japonais à une assemblée d'élus à Tokyo. Il faut revenir à Paris, notamment Valérie Pécresse. La clientèle japonaise a été clairement identifiée comme une des raisons de la baisse des touristes en 2016. C'est ce qu'explique Nicolas Lefebvre. Et pour le directeur général de l'Office du tourisme, les efforts des pouvoirs publics ont eu des conséquences concrètes.
Ces actions ont permis quand même très nettement de rassurer une grande partie du marché japonais, auprès notamment d'ailleurs aussi des professionnels qui eux-mêmes donc sont des prescripteurs de la destination Paris auprès de leurs propres clients japonais.
Une bonne nouvelle pour le tourisme en Île-de-France. Les Japonais sont une clientèle stratégique, même s'ils ne font plus partie de ceux qui visitent le plus la capitale. Les Japonais sont désormais la 9e nation derrière les Belges, les Italiens ou les Chinois.
Bienvenue à tout le monde, à Paris.
Les quais de Seine, je ne m'en lasse pas. C'était le journal de Germain Treille et voici la météo, les couleurs du ciel aujourd'hui avec Élodie Calac.
C'est doux ce matin, souvent 14 à 19 degrés, 18 à Deauville, Paris, Lyon, Agen, jusqu'à 21 degrés du côté de Nice. C'est bien encombré entre l'océan, la Normandie, l'Île-de-France et le sud-ouest. Une ondée est possible entre le Massif central, le Languedoc-Roussillon, sur les Pyrénées aussi. En allant vers l'est, on trouve du soleil. Cet après-midi, le soleil va reprendre le dessus. Il restera des passages nuageux entre la pointe bretonne, la Normandie, jusqu'à la frontière belge. Et puis du sud-ouest vers les Alpes, l'Alsace. Là, ça va devenir plus chaotique avec quelques averses, un risque d'orages dans le sud-ouest et le massif central, des orages qui seront plus marqués des Pyrénées vers le Roussillon. On attend 20 degrés à Brest et à Dieppe cet après-midi, 26 à Nantes, 28 à Lille, Paris, Toulon, 29 degrés à Bourges et à Toulouse, 31 à Metz, à Clermont-Ferrand, 32 à Mulhouse, Nîmes et Perpignan et 34 degrés à Lyon ou à Avignon.
Voilà, Élodie Calac de Météo France, la circulation. OPC Mobilité avec nous ce matin, Johanna Yakin. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Une autoroute fermée dans le Tarn-et-Garonne.
Oui, l'autoroute A20 est coupée en direction de Paris quand on est à hauteur de Montauban suite à un accident. Prudence également en Gironde sur l'A89. On a également un accident à Arvers quand on roule en direction de Bordeaux. C'est au niveau du péage. Et puis dans le nord sur l'A25 et direction Dunkerque, on a là aussi un accident de poids lourd qui peut vous poser problème. C'est à Quai d'Ypres. Attention car on ne circule que sur une seule voie dans le secteur.
Merci Johanna. Le journal des sports, Vincent Pellegrini, c'est dans 35 secondes.
En août sur France Inter, Du lundi au vendredi à partir de 11h,
c'est la bande originale de votre été.
Avec Nagui.
Des invités 5 étoiles, une bonne dose d'humeur, de la musique live, la bande au grand complet.
C'est très très festif. On s'amuse beaucoup, on fait des rencontres. J'ai des souvenirs très émus pour être honnête.
Retrouvez pendant vos vacances les meilleurs moments et les pires de la bande originale.
Avec une bande annonce comme ça, tous les auditeurs de France Inter vont se précipiter.
La bande originale. À retrouver tout à l'heure sur France Inter à partir de 11h.
6h10.
France Inter. Le 6-7.
Et oui, comme promis, le journal des sports avec Vincent Pellegrini. Bonjour Vincent.
Bonjour Pierre.
L'histoire se répète pour les joueuses du 15 de France. Elles ont été battues hier soir en demi-finale de la Coupe du Monde.
Ouais, sous la pluie de Belfast, les Françaises, en manque de réalisme, se sont inclinées face à l'Angleterre 20-3. C'est la 7e fois que les Bleus perdent en demi-finale de Coupe du Monde. Fanny Le Chevestrier.
Jusqu'au bout, pourtant, elles ont été encouragées, poussées par les nombreux supporters français présents. Jusqu'au bout, comme eux, les Bleus y ont cru, à l'image de cet essai de Julia Henry dans le dernier quart d'heure, finalement refusé pour un pied en touche. La chute n'en fut que plus dure. Sur les visages, les larmes se mélangeant à la pluie irlandaise.
Il y a eu beaucoup de déceptions, on est tout en pleurs, on n'arrive même pas à parler, à s'écouter entre nous, déçus, et c'est l'ambiance du vestiaire.
Les mots de Julia Henry sont à la hauteur des espoirs placés dans cette Coupe du Monde et d'un match perdu sur des détails. Mais le rendez-vous manqué, une fois de plus avec la finale, pose la question de la professionnalisation du rugby féminin. Pour la troisième ligne, Marjorie Mayence, il ne faut pas chercher plus loin la différence avec les Anglaises.
C'est des filles qui s'entraînent tous les jours. Nous, on essaye de s'entraîner tous les jours, mais on n'a pas la même vie. On a le rugby, on a le travail à côté, les études pour certaines. Donc je pense qu'au bout d'un moment, si on veut avoir des résultats, il va falloir passer par là.
Un monde professionnel que connaîtra peut-être la jeune génération, mais pour Gaëlle Mignot, où sa fille Ndiaye restait à l'abri des regards dans le vestiaire tricolore. Le rêve est passé, elles ne seront jamais championnes du monde après 2 échecs d'un rien en demi-finale. À Belfast, Fanny Le Chevestrier, France Inter.
Et l'équipe de France affrontera les États-Unis samedi dans la finale pour la 3e place. La grande finale opposera les Anglaises aux Néo-Zélandaises, vainqueurs des Américaines 45-12.
Vincent, la marche était trop haute pour les footballeurs niçois en barrage de la Ligue des Champions.
Déjà battus au match aller par Naples 2-0, les Aiglons se sont de nouveau inclinés devant leur public sur le même score. Les Niçois reconnaissaient aisément être tombés sur bien plus fort qu'eux. À Nice, Stéphane Burgat.
Les clameurs, malgré la défaite, sans regret, le public aura porté son équipe face à cette marche beaucoup trop haute, concède l'attaquant niçois Alan Saint-Maximin.
C'est extraordinaire, malgré la défaite, l'hommage qu'ils nous font. On a la défaite amère quand on voit cette réaction du public. On va se défoncer pour ne pas les décevoir surtout. Oui, c'est sûr qu'il y a vraiment une classe d'écart. On perd 2-0 match aller, 2-0 match retour et ils auraient pu nous en mettre plus.
Une défaite logique, un apprentissage cruel, mais utile pour les jeunes joueurs comme le milieu de terrain Pierre Lesmelo.
Forcément du positif quand ces matchs-là, on peut prendre note de ce qu'ils font, de leur rigueur défensive, de leur simplicité, parce qu'ils jouent une, deux touches, mais toujours efficace. On peut qu'apprendre aux côtés de ces équipes-là, donc on va en tirer les bonnes leçons.
Un lot de consolation, les Niçois joueront bien l'Europe à l'automne. L'Europa League, la petite coupe, oui, mais avec l'envie pour le défenseur Maxime Lemarchand.
Ouais, bien sûr, on a envie d'aller le plus loin possible en Europa League. Voilà, ça va être un petit objectif pour le club, donc faire mieux que l'année passée. À nous de servir de ces matchs-là pour aller plus loin.
Et en attendant le tirage au sort de la phase de groupe de l'Europa League, les Aiglons se focalisent sur leur prochain rendez-vous. Objectif championnat dès ce week-end et un déplacement sur la pelouse d'Amiens. Nice, Stéphane Burgat, France Inter.
Et tirage au sort de l'Europa League vendredi. Il n'y aura donc que 2 clubs français en Ligue des Champions cette saison, Monaco et le PSG. Tirage au sort de la phase de poule demain à 18h. Le FC Barcelone semble ne pas digérer le transfert de Neymar au PSG. Le club catalan réclame 9 millions d'euros à la star brésilienne pour non-respect de contrat. Le Barça a saisi la justice espagnole.
Vincent, la suite des championnats du monde de lutte à Paris-Bercy, place aux dames aujourd'hui et demain.
Oui, les épreuves de lutte gréco-romaine se sont achevées hier pour les garçons. Toujours pas de médaille pour l'équipe de France. Et aujourd'hui, 4 lutteuses tricolores entrent en lice.
C'était le journal des sports avec Vincent Pellegrini. Bienvenue à l'écoute du 6-7 de France Inter. C'est un groupe qu'on aime beaucoup ici à Inter, qui sera à la Cigale, à Paris, le 12 octobre. C'est l'impératrice et le sultan des îles.
Piqué cuir de star, cheveux pressés blonds, trottoir. Sur son boulevard, les néons phares décorent en rose et noir. Elle attend là sans y croire, proie de la nuit, perle rare. Une ombre se glisse dans
Sultan des îles, l'impératrice, extrait du mini-album Séquence, paru cette année. C'était lundi soir à New York, au Madison Square Garden. C'est le site de BFM TV qui le rapporte. Billy Joel est en concert et pendant 4 chansons, il portait sur sa veste, dans le dos et sur sa poitrine, des étoiles jaunes, comme celles imposées aux Juifs par les nazis. Sa réponse aux événements de Charlottesville pour exprimer son soutien aux victimes des néo-nazis et autres suprémacistes blancs. Billy Joel n'a pas fait de déclaration, faisant simplement allusion à l'été difficile que traverse les États-Unis, et il a ajouté « Je vais simplement me contenter de jouer les mêmes chansons parce que c'est mon job ». Voilà, Billy Joel, c'est l'Amérique qu'on aime, pas celle des monstres qui osent se montrer avec des croix gammées, non. L'Amérique qui a changé nos vies, celle de Bruce Springsteen, Martin Luther King, Kennedy, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Orson Welles et Elvis Presley, qu'on retrouvera tout à l'heure à 7h-10.
It's hardly ever heard, and mostly what I need from you.
Billy Joel, 6h19.
Le 6-7 sur France Inter.
Esprit d'initiative, Emmanuel Moreau, et ce matin avec Emmanuel, un jardinier qui cultive à domicile assez de légumes pour nourrir sa famille pendant une année sur un terrain de 35 mètres carrés.
Il produit 300 kilos et sans engrais sur ce bout de terrain. Mathilde Godéchaud du Figaro demain. C'est un exploit que Joseph perpétue là.
Oui, en effet, hein, on peut parler d'exploit, Emmanuel, car Joseph Chauffret n'a pas d'exploitation agricole. Bien au contraire, il cultive son jardin et chaque année, il arrive à faire pousser 300 kilos de légumes sur cette surface.
Légumes, mais il n'y a pas de fruits ?
Si, il a des arbres fruitiers aussi, des pommiers, de la vigne, des kiwis, un poirier, un figuier. Mais, et en petits fruits, il a aussi un mûrier, du cassis, des myrtilles, bref, beaucoup de variétés, mais en moins grande quantité que les légumes.
De quoi faire en quelque sorte une salade de fruits. Mais pour tout ça, il vit à la campagne.
Non, détrompez-vous. Joseph vit en plein centre-ville avec son épouse, dans un village en Seine-Maritime, à Sotteville-lès-Rouen. Et son terrain est de 200 mètres carrés, maison comprise. Hein, et son jardin se compose d'un potager de 25 mètres carrés, d'une serre de 5 mètres carrés et d'un petit verger. On est donc loin de la grande exploitation agricole.
Alors on cherche la faille. Alors, combien de temps il y passe ?
Alors, Joseph est un passionné, hein, il aime passer du temps dans son jardin, mais il a un travail à côté, beaucoup d'activités. Il travaille à la métropole Rouen-Normandie et fait de la sensibilisation au jardinage durable et à l'environnement. Donc oui, Effectivement, ça a un lien, mais il est rarement chez lui. À côté, il fait de la clarinette dans un groupe de musique, des concerts, il fait partie d'une association. Bref, il a une vie bien remplie, à 100 à l'heure comme beaucoup de monde, et il passe seulement 5 heures dans son jardin par semaine.
Alors en fait, c'est monsieur tout le monde qui, comme tout le monde lui aussi, a voulu avoir un jardin.
Oui, c'est ça. En fait, Joseph est un homme très curieux, très intéressé par l'environnement et la permaculture. Donc, il s'est intéressé avec les livres. Il a fait sa formation grâce aux livres. Mais avant, il vivait dans un appartement à Rouen. Il n'avait pas de potager. Hein, c'était vraiment, il vivait en ville. Et il y a 6 ans, quand il a acheté la maison, il y avait sur le terrain un parking, des graviers, une pelouse bien tondue. Donc on est loin du jardin très productif. Maintenant, des épinards, des oignons, des poireaux, une mare ont investi les lieux. Et c'est une vraie étude de cas pour les étudiants en agroécologie qui viennent souvent lui rendre visite.
Mais alors Mathilde, comment est-ce que techniquement on passe à une récolte ainsi de 300 kilos sur seulement 35 mètres carrés ?
Alors c'est à peine croyable, mais sans gants et sans outils en fait. C'est la petitesse de son jardin qui a été une contrainte au début, qui l'a obligé à repenser l'espace. Et c'est avec la technique de la permaculture, qui s'inspire de l'écologie naturelle, qu'on peut réussir à produire beaucoup, tout en améliorant la qualité du sol. Donc en fait, plus on produit, plus on produit. Et Joseph le remarque chaque jour. De plus en plus de vers de terre et d'insectes investissent la terre. Ça grouille, ça vit, ça permet de nourrir la terre. Un jardin en permaculture donne une plus grande diversité en fait à l'environnement. Et qui dit biodiversité, dit moins de parasites, car plus de prédateurs. Alors pour vous donner un exemple, les pucerons seront plus facilement chassés d'un arbre s'il y a des coccinelles à côté qui les mangent. L'arbre sera donc en meilleure santé sans les pucerons et produira plus de fruits.
Et Mathilde, alors, si je remplace le jardin par un balcon, est-ce que la fée nature agira de la même façon ?
Alors oui, bien sûr. Bon, bien sûr, on ne pourra pas être autonome, hein, parce que les Français mangent en moyenne 125 kilos de fruits et légumes par an. Cela dit, sans connaissance et avec une bonne dose de curiosité, on peut se faire son potager sur son balcon. Et pour une première, Joseph conseille de se mettre à la culture du radis, des salades, des herbes aromatiques et des tomates cerises qui sont plus faciles à cultiver. Donc maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne récolte.
Emmanuel Moreau, Esprit d'initiative sur franceinter.fr.
France Inter, le 6-7.
6h23 avec Benoît Ferrand, le journal d'Outre-mer Première. Benoît, en Nouvelle-Calédonie, la chasse aux moustiques est relancée.
Le gouvernement local a en effet confirmé la semaine dernière que 2 nouvelles espèces de moustiques, dont un anophèle qui pourrait transmettre le paludisme, ont été détectées sur le territoire du Caillou. Un plan d'action pour tenter d'éradiquer les 2 vilaines bébêtes a aussitôt été lancé, un plan qui va s'étaler sur 4 mois. Hier matin, les premiers épandages d'insecticides ont débuté sous les yeux de riverains plutôt inquiet.
Franchement, on va dire que ça nous fait un peu peur. D'une part parce que c'est un nouveau moustique et d'une autre part parce que justement, il est porteur du paludisme. Et ça nous fait encore plus peur parce qu'ils ont vraiment pas fait de prévention ici. En gros, c'est à nous d'y faire attention, quoi.
Mais j'espère que le gouvernement, il va faire quelque chose. Et j'aimerais bien savoir d'où ça vient, en fait. S'il n'y avait pas ça avant, d'où ça vient, ce moustique-là?
Du coup, j'ai tout retourné mes pots et c'est anti-moustique tous les soirs, même s'il n'y en a pas, quoi. Ah oui, on a tellement peur parce que mon fils, il a chopé une fois la dengue. Et là, du coup, je prends plus le risque, quoi.
En Guadeloupe, c'est la chasse aux pigeons à couronne blanche qui a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par des associations de protection de la nature. Le pigeon en question, espèce endémique de la Guadeloupe, serait, selon ces associations, en voie d'extinction. Béatrice Sibéné, la présidente de l'Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles, a été jointe par Mariska Martial.
C'est une espèce qui est en très mauvais état de conservation chez nous. Et malgré cet état de conservation, le préfet de la Guadeloupe a réautorisé sa chasse cette année. Une chasse qui avait été suspendue puis annulée par le tribunal administratif l'an passé, qui avait donc déjà été saisie par nos associations. Cette année, la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, nous a rejoints. Et donc, nous avons de nouveau demandé au tribunal de suspendre en urgence la chasse de cette espèce menacée. D'autant plus que le préfet avait fait fi des décisions passées et qu'il a réautorisé la chasse de cet oiseau en période de reproduction et de dépendance des jeunes, ce qui est une violation pure et simple du code de l'environnement.
On n'en parle plus du tout, mais une éruption est toujours en cours au Piton de la Fournaise, le volcan de l'île de la Réunion. La raison pour laquelle le volcan est retombé dans l'anonymat est toute simple. Le spectacle, qui faisait la joie des Réunionnais et des touristes, n'est plus au rendez-vous. Pierre Komorasamy.
La seule bonne nouvelle pour ceux qui seraient tentés d'aller faire un tour du côté du volcan, c'est le beau temps qui semble être revenu sur la région. La moins bonne, c'est que l'éruption n'est plus visible et son intensité est stable mais très faible. Le trémor volcanique, qui est l'indicateur de cette intensité éruptive en surface, a en effet beaucoup diminué depuis la fin de la semaine dernière. Autant d'éléments qui laissent supposer une fin prochaine de cette éruption, qui a débuté le 14 juillet et qui en est à sa 6e semaine d'activité.
Bonne journée.
C'était Benoît Ferrand, le journal d'Outre-mer Première.
France Inter, le 6-7, Grand Angle.
Grand Angle avec le succès du Bitcoin. Depuis quelques jours, un Bitcoin vaut 3600 euros. Sa valeur a quadruplé depuis le début de l'année. La monnaie numérique la plus connue et la plus utilisée a donc atteint son plus haut niveau depuis sa création en 2009. Le Bitcoin, une monnaie entièrement dématérialisée, elle n'est présente que sur Internet, personne ne la contrôle, elle n'appartient à aucune entreprise, aucun État, aucune organisation particulière. Qu'est-ce qui explique cette incroyable augmentation du Bitcoin ? Enquête de Boris Tellier.
Le Bitcoin, on en parle de plus en plus et forcément, plus on en parle, plus le nombre d'acheteurs augmente. Et un produit qui est très demandé voit inévitablement son prix augmenter. Manuel Valente est le directeur de la maison du Bitcoin à Paris.
Très clairement, nous, ce qu'on a pu observer, c'est vraiment une augmentation de la demande autour du Bitcoin. Au départ, c'était surtout des informaticiens, des geeks qui s'intéressaient à cette technologie. Aujourd'hui, on voit vraiment monsieur tout le monde et des bons pères de famille qui s'intéressent à cette technologie et qui espèrent gagner de l'argent en investissant dans le Bitcoin.
Un Bitcoin vaut aujourd'hui 3600 euros, sa valeur a quadruplé depuis le début de l'année. Pour Manuel Valente, le Bitcoin attire aussi parce qu'il contraste fortement avec la plupart des offres financières.
Le monde financier traditionnel n'offre à l'heure actuelle, en matière de placement, pas des perspectives qui sont extrêmement intéressantes. Tout ce qui est placement livret A ou autre, aujourd'hui ça va être quelques pourcents maximum. Alors que quand on voit l'augmentation monstrueuse du cours du Bitcoin ou des autres crypto-monnaies, c'est bien plus prometteur.
Prometteur parce que les transactions se font sans intermédiaire. Elles sont plus fluides, plus sûres, affirme Jacques Favier, l'auteur de Bitcoin, la monnaie acéphale.
C'est le premier objet digital non copiable. Si je vous envoie de mon téléphone vers le vôtre un fichier, une photo, une image, un son, je vous envoie une copie. En fait, nous avons chacun deux copies du même fichier. Par contre, si je vous envoie un Bitcoin, je ne l'ai plus.
Et pour Jacques Favier, le Bitcoin n'a pas fini son ascension.
Il y a une énorme confiance dans la communauté en une valorisation bien plus élevée à l'horizon de quelques années. C'est-à-dire pas à 4 chiffres, mais à 5 ou 6 chiffres.
Le Bitcoin a vocation à devenir l'équivalent de l'or numérique. Il ne pourra pas y en avoir plus de 21 millions dans le monde. C'est un algorithme qui les génère. Il en produit de moins en moins jusqu'à atteindre ce seuil. Aujourd'hui, près de 17 millions de bitcoins sont présents sur le marché.
Grand Angle, Boris Tellier, Stéphanie Fromentin, bonjour.
Bonjour Pierre.
La météo, oui. Le ciel est mitigé, mais alors il fait toujours chaud.
Oui, nous sommes dans un flux océanique qui, de la Bretagne à la Normandie jusqu'en Nouvelle-Aquitaine et Midi-Pyrénées, fera débuter cette journée sous un ciel très nuageux avec quelques gouttes ici et là. Tandis que l'ambiance est déjà lourde sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et le Massif central où quelques ondées orageuses sévissent ce matin, laissant l'est du pays très ensoleillé. Cet après-midi, ces nuages se désagrègent et de belles périodes ensoleillées s'imposent sur un grand quart nord-ouest du pays. Seuls quelques nuages s'attarderont sur les côtes de la Manche jusqu'aux frontières belges. En revanche, sur le sud et l'est, des nuages bourgeonnants donneront localement des averses, parfois orageuses sur le relief. Il n'y a que sur la Corse que le soleil reste généreux tout au long de la journée.
Et il fait encore chaud donc ?
Même si le mercure stagne, la chaleur résiste. Ce matin, les températures varient de 12 à Manosque jusqu'à 19 à Toulouse, jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Cet après-midi, elles oscillent entre 20 et 23 degrés près de la Manche, 23 à 28 sur le nord-ouest et près de l'océan, 27 à 33 ailleurs, jusqu'à 34 degrés en Rhône-Alpes.
Merci Stéphanie, nous sommes le mercredi. Oh là là, je me réveille
déjà.
Mal. Mercredi 23 août, le soleil va se lever à 6h56, il ne se couchera à 20h49, mais là il est 6h30. Le journal du mercredi 23 août à 6h30, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Les supporters de Donald Trump réunis à Phoenix, Arizona, le président américain est venu prendre un bain de foule après les polémiques déclenchées par ses propos ambigus sur les suprémacistes blancs. Reportage dans ce journal. Un petit tacle à son ex-protégé et successeur. François Hollande fait la leçon à Emmanuel Macron alors que les concertations sur la loi travail se poursuivent. Il ne faudrait pas demander aux Français des sacrifices qui ne sont pas utiles. Emmanuel Macron, lui, entame sa rentrée par une mini-tournée européenne. Objectif, convaincre les pays d'Europe de l'Est de durcir la directive sur les travailleurs détachés. Et puis la traditionnelle journée du secours populaire pour les oubliés des vacances. C'est aujourd'hui 5000 enfants franciliens vont fouler les planches de Deauville.
France Inter.
Donald Trump à la rencontre de ses fans, c'est en ce moment à Phoenix, Arizona. Le président américain tient un meeting devant des milliers de supporters. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses propos ambigus sur les suprémacistes blancs de Charlottesville ne les a pas ébranlés. Ludovic Piala les a rencontrés.
Chez elle, dans le Kansas, Loretta avait une vue imprenable sur l'éclipse solaire qui a traversé les États-Unis lundi. Elle n'a rien vu, elle a préféré rouler 18 heures sans dormir pour arriver tôt à Phoenix.
Surtout après toutes les critiques qu'il a reçues pour Charlottesville, je voulais venir ici et lui montrer mon soutien, qu'il sache qu'il y a du monde entre les deux côtes, l'Est et la côte Ouest, et que nous sommes toujours derrière lui.
Charlottesville n'a rien changé pour ses supporters. Au contraire, Steve, un membre des Bikers for Trump, les motards pour Trump, estime que le président américain a bien réagi.
Je ne vois pas comment on peut qualifier Trump un peu de raciste à cause de sa réaction. C'est un fait, les deux camps avaient tort. Pourquoi on le traite de raciste? Il n'a rien dit de raciste.
Le mur, la réforme des impôts, les infrastructures, tous ces chantiers n'ont pas avancé en 7 mois. Mais personne ici ne blâme le président, surtout pas Stacy, qui sourit devant une pancarte anti-musulman.
Il essaye de faire plein de choses. Il expulse ses sans-papiers, merci mon Dieu. Mais il faut le laisser faire son travail. Le Congrès doit l'aider.
L'autre ennemi, ce sont les médias. Difficile de discuter avec un sympathisant de Trump sans entendre parler de fake news. À Phoenix, Loïc Piala pour France Inter.
Après l'inculpation hier de 4 suspects des attentats de Barcelone et Cambrils, on en sait un peu plus sur les projets initiaux des terroristes. La cellule djihadiste préparait une attaque à la bombe de grande envergure contre des monuments en Catalogne. C'est ce qu'a expliqué au juge Mohamed Ouli Chemlal, un Espagnol de 21 ans. Un des 4 suspects a été relâché sous contrôle judiciaire. La police continue à enquêter sur de possibles ramifications internationales, notamment sur le passage par la France d'une partie du commando. L'Audi A3 utilisé à Cambrils a été flashé près de Paris le 12 août dernier avec 4 personnes à son bord.
6h33, le journal Corinne Audouin. Corinne, François Hollande, le retour. L'ancien président tacle son successeur.
Oui, en pleine concertation sur la réforme du Code du Travail, le moment choisi par François Hollande n'est sans doute pas dû au hasard. Depuis 3 mois, l'ancien locataire de l'Élysée n'avait fait aucun commentaire sur son successeur. Hier, en marge du Festival du film d'Angoulême, François Hollande s'est fendu de quelques conseils à Emmanuel Macron.
J'avais hérité d'une situation très difficile, qui était celle de la crise. Et puis mon successeur a une situation meilleure, mais tant mieux. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il en fasse le meilleur usage. Parce qu'il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Il ne faudrait pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures.
Voilà, François Hollande, hier, donc, au Festival du film d'Angoulême. Et pendant ce temps, eh bien, Emmanuel Macron, lui, entame une mini-tournée de 3 jours en Europe, en Autriche, Roumanie et Bulgarie. Au menu des discussions, les travailleurs détachés, ces salariés qui peuvent aller travailler dans n'importe quel pays d'Europe pour une mission temporaire. C'est la fameuse figure du plombier polonais. Ils sont payés au salaire minimum, mais leurs cotisations sociales sont versées dans leur pays d'origine. Or, les règles actuelles n'empêchent pas certaines entreprises de frauder, créant ainsi une concurrence déloyale avec les salariés français. Et le président Macron espère convaincre les Européens de durcir le système. Delphine Simon.
Emmanuel Macron veut tout d'abord limiter la durée du détachement. Pas plus de 12 mois pendant 2 ans, contre 24 mois aujourd'hui. Il ne serait plus possible de remettre le compteur à zéro dès que le salarié détaché rentre dans son pays d'origine. Aujourd'hui, il est facile de contourner les règles en multipliant les séjours de 3 mois. Les règles des accords collectifs, les primes ou le 13e mois devraient s'appliquer sans aucune dérogation. Enfin, pour traquer plus efficacement les fraudes, Paris réclame plus de transparence et d'efficacité dans les échanges entre les inspecteurs du travail, avec de réelles sanctions en cas d'abus, des sanctions aujourd'hui facultatives selon Paris. Ces questions sont moins techniques qu'il n'y paraît, affirme l'Élysée. Elles sont politiques, car à force d'abus, la liberté de circulation des travailleurs pourrait être remise en cause. Emmanuel Macron espère ainsi gagner de nouveaux alliés afin de parvenir à un accord pour changer la réglementation européenne lors du Conseil des ministres du Travail fin octobre.
Reconversion en vue pour François Fillon, l'ancien Premier ministre et candidat malheureux de la droite à l'élection présidentielle, va rejoindre la société de gestion d'actifs et d'investissement Tikeo Capital en tant qu'associé. 5000 enfants d'Île-de-France débarquent aujourd'hui sur la plage de Deauville en Normandie. C'est la traditionnelle journée du secours populaire pour les oubliés des vacances. Tout est prévu pour rendre cette journée à la mer inoubliable. Écoutez son organisateur Frédéric Vedel au micro de Jean-Baptiste Menanteau de France Bleu Normandie.
Une première équipe est arrivée donc à J-2 pour installer tout ce qui est régie et tente pour le meilleur accueil des bénévoles. Et au J-1, c'est l'installation de toutes les structures qui vont accueillir les enfants. Alors les structures sont des tentes, tout simplement. On reconstitue sur la plage des centres logistiques pour les organisations départementales du secours populaire francilien.
Alors justement, il y a un petit peu ce décalage entre Deauville, qu'on dit être une ville un peu bourgeoise, et ces enfants qui finalement n'ont pas les moyens de partir en vacances.
C'est vrai que le décalage existe, et c'est aussi ce qui nous a plu dans le challenge de solliciter la ville de Deauville, qui a accepté dans l'immédiat. On a un très très bon accueil de la municipalité, et on ne peut pas non plus négliger le très bon accueil de la préfecture du Calvados. Voilà. Mais la ville de Deauville est très 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 heureuse de nous accueillir. On a même, je peux dire qu'on n'a jamais eu un tel accueil sur les moyens de visibilité qu'ils offrent à notre journée.
Les enfants et les enfants ont de la chance, il va faire beau en Normandie cet après-midi. Et puis, je suis sûre que vous en êtes aussi chagriné que moi, Pierre. C'est encore raté pour les Françaises. L'équipe de France féminine de rugby a chuté hier en demi-finale face à l'Angleterre. Battue 20-3, les Anglaises qui retrouveront samedi la Nouvelle-Zélande en finale donc de la Coupe du Monde de rugby.
C'était le journal de Corinne Audouin. Un mot du jeu des 1000 euros avec l'ami Nicolas Stoufflet. Aujourd'hui, des enregistrements. Un enregistrement à Dieppe à 18h30, salle du casino. Donc, on est en Seine-Maritime. Et demain, toujours en Seine-Maritime, à Harfleur, au centre culturel La Forge, à 18h30 également. La circulation Johanna Yakin, la 7 est coupée en direction du sud.
Oui, à mi-chemin entre Lyon et Valence, l'autoroute est coupée à hauteur de Beausemblant précisément. C'est fermé à cause d'un accident de poids lourd. Du coup, on a 3 km de bouchons en amont. Le conseil, c'est de prendre la sortie Chanas pour éviter le secteur. En revanche, bonne nouvelle dans le Tarn et Garonne, l'autoroute A20 est maintenant rouverte à hauteur de Montauban pour rouler direction Paris. Par contre, le trafic reste assez coincé en amont sur 1 km.
Merci Johanna.
Cet été sur France Inter, du lundi au vendredi à partir de 9h.
Dans quel monde on vit? Le monde raconté par ceux qui l'observent, ceux qui le vivent.
Julia Fox.
Vous le sentez là dans l'air, le parfum de la rentrée scolaire? Oh oui, elle vous guette, oh oui, elle vous attend, même si vous avez quitté l'école depuis longtemps. Eh ben on y retourne. Avec qui y traîne souvent les pieds? Les décrocheurs, les gamins en difficulté. Avec eux, jurez, ce sera aussi la récré.
Dans quel monde on vit?
Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 9h.
Vous aimez être à la pointe de la performance?
DS Automobile présente DS3 Performance Line.
Avec ses projecteurs DS LED Vision, ses jantes alliage noir, ses sièges sport, son aileron de requin et son pack Performance Line, cette sportive produite en France combine parfaitement dynamisme et raffinement.
DS Automobile.
Jusqu'au 31 août, pour l'achat de DS3 Performance Line, DS Automobile reprend votre véhicule 3000 euros au-dessus de sa valeur. Détails de l'offre sur dsautomobile.fr.
Avant de retrouver Lionel Thompson pour les titres de la presse, voici la chanteuse et flûtiste belge Mélanie de Biasio. Elle sera au Troubadour de Lyon le 21 octobre prochain. Et là, c'est son titre Gold Junkies. Gold Junkies. Oui, c'est bien, c'est costaud ça. Mélanie de Biasio, Gold Junkies. Je voulais vous dire, le troubadour à Lyon, ça n'existe pas. C'est une invention. Pourtant, j'ai bu mon café, j'ai mes lunettes, je me suis couché tôt, mais j'invente des choses. À Lyon, vous avez le transborder et c'est là-bas que vous pourrez entendre et voir Mélanie de Biasio le 21 octobre prochain. Le transborder, voilà.
France Inter. Le 6-7.
Une émission un peu déjantée ce matin. La revue de presse, ce sera à 8h30 sur France Inter avec Lionel Thompson. Bonjour Lionel.
Bonjour Pierre.
Les titres de la presse.
Les titres très variés ce matin, avec par exemple Le Parisien qui a choisi de faire sa une sur un possible nouveau scandale en matière de santé. La colère des malades de la thyroïde, titre le quotidien régional francilien. Des malades qui se plaignent des effets secondaires d'un médicament, le Levothyrox, dont une nouvelle formule a récemment été mise sur le marché par le laboratoire Merck. Un patient interrogé par Le Parisien parle par exemple de perte de mémoire. L'Association française des malades de la thyroïde, interrogée elle aussi, réclame carrément de mettre fin à l'utilisation de ce médicament. C'est dans Le Parisien donc ce matin. Autre scandale bien établi, celui-là, celui des œufs au fipronil. C'est La Croix qui fait sa une ce matin sur, je cite, « les leçons d'une crise ». Et le quotidien revient sur toutes les questions que pose cette crise qui a traversé l'été. Rien de vraiment nouveau, mais si vous revenez de vacances et que vous n'avez rien lu, rien écouté, rien regardé sur le sujet, vous pouvez toujours vous remettre à la page donc avec La Croix. Pour prolonger l'un des autres sujets qui a fait les gros titres la semaine dernière, la polémique autour des statuts de généraux confédérés aux États-Unis, Libération s'est penché sur les statuts et monuments qui fâchent, non plus aux États-Unis, mais en France. La France aussi a ses fantômes, titre le quotidien, et de dresser l'inventaire des statues ou rues dédiées dans nos villes à des esclavagistes avérés. Un militant associatif interrogé par Libé plaide non pas pour les déboulonner, mais pour leur adjoindre des plaques explicatives. Quelques unes plus politiques aussi ce matin. Le Figaro se penche sur la réforme annoncée de l'ISF pour détailler ce qui va changer. L'ISF ne devrait plus concerner que les biens immobiliers. Et pour déplorer, dans l'éditorial de Jacques-Olivier Martin, qu'Emmanuel Macron ne soit pas allé, je cite, « au bout de son excellente idée en supprimant entièrement l'ISF ». Les Échos détaillent pour leur part ce matin la réforme à venir de la CSG et le nouveau plan de l'exécutif concernant cette réforme. Le gain de pouvoir d'achat pour les salariés sera étalé dans le temps, croit savoir le quotidien économique. Mais la réforme qui fait toujours le plus la une, c'est celle du Code du travail, à la une de la Dépêche du Midi, du Midi Libre ou encore du Télégramme. Et le Canard enchaîné s'en amuse. Code du travail, que demandent les patrons ? Oh, juste quelques médéfications, titre l'hebdo satirique. Et puis ça ne fait pas forcément les gros titres, mais plusieurs journaux notent ce matin la réapparition de François Hollande, qui a mis son grain de sel dans cette réforme du Code du travail hier. Certains journaux s'en amusent, d'autres s'en agacent. L'Opinion y consacre un billet de Jean-Jérôme Bertolus, qui s'interroge. François Hollande se condamne-t-il à devenir le Sarkozy d'Emmanuel Macron ? En notant que l'ex-chef de l'État est, paraît-il, très irrité par le manque d'égard d'Emmanuel Macron à son encontre et de soupçonner les velléités de retour de François Hollande. La mésaventure politique de Nicolas Sarkozy a pourtant démontré que l'histoire ne repasse pas les plats, conclut l'éditorialiste de l'Opinion. À noter aussi que le film 120 battements par minute qui sort ce mercredi et dont nous avons parlé déjà sur France Inter fait encore également quelques-unes, notamment celle de l'Humanité ce matin.
Lionel Thompson à 8h30 sur France Inter dans le 7-9 de Nicolas Demorand. 8h30, c'est la revue de presse. À tout à l'heure, Lionel.
À tout à l'heure.
La presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, l'écho du centre et en ligne avec nous, Mégane Lépine qui est journaliste à l'écho du centre. Bonjour Mégane.
Bonjour.
Dans votre journal, un papier, une enquête à propos de ces fameux emplois aidés qui vont être supprimés par le gouvernement. Et vous titrez « Emplois aidés, une catastrophe annoncée en Haute-Vienne ».
Oui, alors ce matin dans l'écho, nous avons décidé de publier un article sur l'épineux sujet des emplois aidés qui sont jugés coûteux et inefficaces par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail et le gouvernement pour lutter contre le chômage. Alors sur le département de la Haute-Vienne, ça représente tout de même plus de 14 000 contrats aidés qui ont été mis en place depuis 2012. Que ce soit le secteur marchand ou non marchand, tous les secteurs sont concernés. Donc cela va du secteur médico-social à l'industrie, en passant par l'hôtellerie, les secteurs sanitaires et social, l'enseignement, les commerces, la restauration. Donc nous, la préfecture de la Haute-Vienne nous a assuré que l'éducation nationale ainsi que les agents de sécurité des forces de l'ordre ne seraient pas impactés par la réduction drastique du nombre de ces contrats. C'est tout de même un nouveau coup dur du nouveau du côté des syndicats et des associations qui nous ont confié leurs inquiétudes.
Oui. Mégane, autre sujet en Haute-Vienne, la cueillette des pommes se prépare.
Oui. Alors elle devrait débuter dans un petit peu plus d'un mois, fin septembre, et durer de 3 à 4 semaines. Donc des forums de recrutement sont actuellement organisés, puisqu'au total 1000 postes sont à pourvoir chaque année dans les départements de la Haute-Vienne et de la Dordogne. Les besoins de main-d'œuvre varient logiquement selon la taille des exploitations. Cela va de 15 à 150 cueilleurs recherchés. On constate cependant que les candidats se dirigent en premier vers les vergers situés les plus près des grands axes routiers, et ce malgré des systèmes de bus au départ de grandes villes telles que Limoges, Brive et Tulle, qui mènent pourtant jusqu'au petit village où là on peine parfois à trouver des cueilleurs.
Juste un point, pour cueillir des pommes, il faut une compétence particulière, il y a un geste précis à faire pour ne pas abîmer ces fruits ?
Alors oui, il y a un geste particulier pour bien cueillir la pomme et surtout ne pas l'abîmer, puisque c'est quand même un fruit très fragile. Cependant, il n'y a pas de profil type pour être cueilleur. Il faut simplement une bonne condition physique, puisque la journée type d'un cueilleur dure 7 heures et qu'il doit réaliser un rendement minimum de 900 kilos par jour. Il faut aussi savoir que les cueilleurs sont payés au SMIC et ils peuvent recevoir des primes de qualité et de quantité selon les fruits cueillis, ce qui les pousse bien sûr à cueillir davantage que ces 900 kilos.
Mégane Lépine, journaliste à l'Écho du Centre, était sur France Inter ce matin. Merci Mégane, bonne journée.
Le 6-7 sur France Inter.
À 6h49, évidemment, Magic Elvis, Elvis Presley, la série de Philippe Robin. Et ce matin, l'influence de Presley sur tant de chanteurs et chanteuses dans le monde.
On imagine difficilement à quel point Elvis Presley a influencé plusieurs générations de chanteurs dans le monde entier. Des gens comme John Lennon, Bruce Springsteen, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ou encore Dick Rivers ont bien sûr chanté haut et fort leur amour pour le King. Mais d'autres aussi, saviez-vous par exemple que Diane Tell sait tout de lui ?
Si tu savais, Elvis, tout ce que t'es beau, je sais plus quoi,
tout ce que t'étais.
C'est comme ça que j'ai découvert Elvis, moi, un peu par Diane Dufresne, que j'adorais quand j'étais débutante en musique. Et elle chantait Elvis et son amour pour lui, et pour nous, c'était Elvis au Ed Sullivan Show, quoi. C'était le gros truc américain. Dès que je peux, je m'instruis sur lui.
Et Diane Tell fait partie des rares personnes qui pensent qu'il peut y avoir un autre cas comme Elvis dans le monde.
Je pense pas que l'entourage de Marilyn Monroe, par exemple, en fasse autant, autour de sa maison à visiter, etc., parce que c'était une maison qui ressemblait à rien, je pense, lorsqu'elle est morte. Mais par contre, le filon Marilyn Monroe, financièrement parlant, continue d'être très bien entretenu. Johnny, c'est pas pareil un peu, Johnny ? Johnny, les fans de Johnny qui remplissent encore des... au-delà du stade, là, c'est pareil, je veux dire, Johnny, quand il va mourir, il va avoir la maison de Johnny à visiter pendant 30 ans. Celle en Suisse, en tous les cas, sera à visiter pour sûr.
Ahmed Mouissi, chanteur du groupe Powo et interprète de Ramsès dans les 10 commandements, lui aussi c'est tout d'Elvis.
Heartbreak Hotel, c'est son premier disque d'or, il arrive de Sun Records, il est à Memphis, et là il arrive, c'est Elvis arrive à New York, donc tous les États-Unis le voient, et voilà, et puis John Lennon s'est mis à faire de la musique. quand il a entendu ça. Puis c'est sa voix qui est élastique dans les aigus et qui descend, il murmure à l'oreille « So long les babies ». Il y a le solo de guitare, il y a l'ambiance, le solo de piano à la fin du solo de guitare. Et cette voix, quoi. Et puis l'histoire de l'hôtel des cœurs brisés qui est quand même magnifique.
Et certains ont fait tout leur possible pour s'approcher de l'univers d'Elvis, quitte à lui emprunter quelques recettes musicales.
Biche, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux.
Biche, ma biche est une chanson originale donnée par Mort Schumann à Frank Alamo en 1964. Corbino, qui était mon attaché de presse, me dit un jour, comme t'es un fan d'Elvis Presley, je peux te faire rencontrer un type qui écrit des chansons pour Elvis Presley. Ah, merci mon Dieu, il suffit simplement de lui envoyer le billet d'avion et il vient. Je vois arriver un grand escroc griffe avec des gros cheveux bien bouclés et tout, qui s'appelait Mortimer Schumann. Et il me dit, j'ai des chansons pour toi et je voudrais que tu écoutes ça, ça, ça. Je lui prends une chanson. J'avais... Mais il me dit, je dois te dire que je sais qu'il y a un groupe anglais qui va la sortir dans les deux mois qui viennent, mais si tu te dépêches, tu seras le premier.
Et la liste de tous ceux qui ont un jour ou l'autre emprunté quelque chose à Elvis est interminable. Dans le monde du spectacle, il restera un modèle encore longtemps. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up. I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. My tongue gets tired when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah.
All Shook Up, un classique pour l'éternité, Elvis Presley, et l'éternité, c'est long. Ça, c'est François Mitterrand qui le disait, l'éternité, c'est long, quand on lui parlait de la perspective d'un jour disparaître et de la mort. J'arrête parce qu'on est en retard, on va enchaîner sur ces lieux qui changent, les modifications urbaines, avec la Belgique ce matin. C'est notre série, ces lieux qui changent, notre série de l'été, direction Hombourg, dans la province de Liège. La gare de Hombourg a été transformée en gîte par un couple de passionnés, Mireille et John. Plus aucun train n'y passe depuis 1962. La gare accueille désormais des groupes qui viennent y passer un week-end ou des familles qui organisent des fêtes. Reportage de Mélanie Joris de la RTBF.
À la gare de Hombourg, les trains de la ligne 38 ne passent plus. Les wagons se sont définitivement arrêtés en 1962. John et Mireille ont redonné vie à ce lieu avec beaucoup de passion. Au début, le projet devait être modeste. Ils ne comptaient racheter que l'hôtel en face de la gare. Et puis finalement, ils ont tout racheté. L'hôtel, le corps de la gare et les deux wagons restés sur place. C'est la première étape qui a été la plus ardue.
Rempli. Tout était rempli. Donc, on a vraiment dû d'abord, une fois passé notre temps, à vider les lieux. Donc, c'était tout était rempli. Donc, ça appartenait avant à un collectionneur. C'était d'abord vider les lieux pour pouvoir commencer.
La gare de John et Mireille a été construite en 1895. Ce fut un lieu de voyage, mais elle a aussi servi de magasin de fruits, de charbon, de paille, de foin, de mazout et de pommes de terre.
pendant la guerre 40-45, c'était une guerre allemande. Toucher les volets. Prenez l'informe. Hein. C'est des volets métalliques parce qu'ils avaient peur de se faire tirer dessus. Donc ils sont super lourds, ces volets. Tous les volets ici sont en métal comme protection de l'extérieur.
À deux pas de la gare et du bâtiment principal, un petit bâtiment carré se détache à quelques mètres des anciens rails.
Donc ce bâtiment-ci s'appelle la lampisterie. C'est ici qu'on dirigeait la lampe sur le tracé. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils mettaient les bergers allemands ici. Il fallait bien les mettre quelque part.
Aujourd'hui, la lampisterie est devenue la cuisine des hôtes qui louent les wagons de train. Ces wagons faisaient partie d'un convoi hôpital. À l'intérieur, le confort est rudimentaire, mais on y fait l'expérience de l'insolite.
Voilà, salon, dortoir. Le salon peut devenir dortoir aussi. Je peux soit les descendre, soit les remonter. Voilà. C'est vraiment prévu pour, hein? C'est vraiment prévu pour. Avant, c'était pour 42 personnes. C'était un wagon hôpital, vous avez peut-être vu la Croix-Rouge devant.
Sur la structure des paillasses, on retrouve encore les vestiges des anciens occupants. Un nom est apposé à chaque couchette.
Vous voyez, il y a encore des Welsh. Là, il y a aussi Goit. Il y en a un peu partout.
Il aura fallu 9 mois à Mireille et John pour rénover le bâtiment de la gare et puis une petite année pour s'occuper du gîte. Ces bâtiments, qui appartenaient auparavant au collectif, ouverts à tous, sont désormais du ressort du domaine privé, une notion qui n'est pas toujours comprise.
Les gens plus vieux pensent que ça reste public. Quand je dis c'est privé, non, c'est une gare. On a mis maintenant des panneaux privés, ça se respecte quand même, en général c'est respecté. Tout doucement, ça rentre dans les mœurs que ce n'est plus un lieu public.
La gare de Hombourg, c'est donc un lieu qui a déjà vécu plusieurs vies. À la question « La gare va-t-elle encore changer ?», Mireille répond que pour l'instant, les travaux sont finis.
On dit souvent qu'on a fini et puis on recommence. Donc je ne dirais pas que c'est fini à l'infini. On va peut-être recommencer, mais pas dans l'immédiat.
Cette gare qui n'en est plus une a gardé son âme et son cachet d'antan grâce à ses deux passionnés. Un projet qui leur tient à cœur et qui sera transmis à leur fils Cyril lorsqu'il aura fini ses études dans l'hôtellerie.
Mélanie Joris de la RTBF, ces lieux qui changent. Stéphanie Fromentin, la météo en quelques secondes. Le ciel hésite entre les nuages et les éclaircies, mais les températures restent estivales.
Et ce matin, elle varie de 14 à 19 degrés jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Cet après-midi, le mercure restera doux près de la Manche avec 20 à 23 degrés, 23 à 28 sur le nord-ouest et près de l'océan, jusqu'à 34 en Provence.
Merci Stéphanie, un point plus complet tout à l'heure à 7h27 dans le 7-9 de Nicolas Demorand.